Radio Prague, les informations.
Bonjour, la Banque de République tchèque revoit aussi à la baisse son estimation de la croissance du PIB en 2012. Les députés ont approuvé le projet de budget pour 2012. Et puis en football, en Ligue des champions féminines, le Sparta de Prague a été lourdement battu par les championnes d'Europe de l'Olympique lyonnais. On commence donc avec de l'économie. La Banque de République tchèque a nettement revu à la baisse son estimation de la croissance économique du pays pour l'année prochaine. Selon son nouveau pronostic publié ce jeudi, la croissance du PIB devrait s'élever à 1,2% en 2012 contre 2% cette année. Dans son précédent pronostic, la Banque de République tchèque avait prévu une croissance de 2,2% en début de semaine. Rappelons-le, le ministère des Finances avait lui annoncé que la croissance ne dépasserait pas 1% l'année prochaine. Malgré les obstructions de l'opposition social-démocrate, la Chambre des députés a approuvé en première lecture le projet de budget de l'État pour 2012, mercredi soir. Ce projet prévoit un déficit de 105 milliards de couronnes, environ 4 milliards 300 millions d'euros, soit une réduction de 30 milliards par rapport au budget prévu pour cette année. Le texte va désormais être débattu au sein des commissions parlementaires avant le vote final en décembre. Le ministère des Affaires étrangères, Karel Schwarzenberg, a mis en garde contre la tendance que pourrait avoir la République tchèque à adopter une politique de l'autruche et à se détourner des problèmes de la zone euro simplement parce qu'elle n'en est pas membre. Selon le chef de la diplomatie qui participait ce jeudi à une conférence sur la politique extérieure de la République tchèque, Prague doit prendre conscience qu'elle est embarquée sur le même bateau que les autres pays membres de l'Union européenne et qu'elle se doit donc d'être solidaire. Karel Schwarzenberg a affirmé qu'il ne fallait pas se faire d'illusions et que la crise économique actuelle aurait des conséquences également pour la République tchèque. Il faut nous efforcer de participer à la stabilisation. L'Europe a besoin d'être unie, a précisé le ministre. Un Tchèque sur deux pense que la situation en général en République tchèque n'évolue pas dans le bon sens. Seuls 13% des personnes interrogées estiment que le développement de leur pays est positif. Il s'agit d'une baisse de 19 points depuis la tenue des élections législatives en mai 2010. Tels sont les principaux enseignements qui ressortent du sondage réalisé en octobre dernier par l'agence STEM. Selon les résultats communiqués mercredi, un tiers des Tchèques pensent même que leur pays ne va dans aucun sens défini. Par ailleurs, 50% guettent l'année prochaine avec des craintes, un tiers en étant rempli d'un sentiment d'incertitude. Seul un peu plus de 15% des gens affirment être optimistes, soit le chiffre le plus faible de ces 15 dernières années. Le prix Josef Škvoretský, du nom du célèbre écrivain et éditeur tchèque, sera remis cette année à Martin Ryšavý, récompensé pour son dernier roman Vrač. Troisième livre de Martin Ryšavý, Vrač est une nouvelle fois consacré à la Russie et plus précisément à l'absurdité et au paradoxe de la vie dans la Russie d'aujourd'hui. Martin Ryšavý s'est fait connaître du grand public il y a 3 ans notamment grâce à son roman en 2 volumes intitulé Voyage en Sibérie, décerné pour la première fois en 2007. Le prix de la haute école privée Josef Škvoretský est attribué à un auteur tchèque dont le roman a paru dans le courant de l'année écoulée. On passe au sport et au football. Le Sparta de Prague a été nettement battu 0-6 par l'Olympique lyonnais jeudi après-midi devant son public à l'occasion du match aller des 8e de finale de la Ligue des champions féminines sous les yeux de leur président Jean-Michel Aulas qui a assisté au match en compagnie de l'ambassadeur de France Pierre Lévy. Les lyonnaises championnes d'Europe en titre ont confirmé à Prague leur statut de grande favorite de ce double affrontement. Le match retour sera disputé au stade Gerland à Lyon mercredi prochain. Et puis on termine avec un mot de météo. Comme ces derniers jours, le temps reste essentiellement nuageux ce vendredi, jour de la fête des Carrel et Carla, c'est-à-dire Charles. Le soleil est toutefois plus présent dans la moitié nord-est du pays. Les températures sont stables et varient entre 5 degrés dans l'extrémité ouest du pays à 15 degrés dans la pointe est. Aucune évolution notable n'est attendue pour le week-end. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information qu'a eu le plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. Merci de votre attention. Merci également de rester en notre compagnie pour la suite de notre programme. Une suite qui vous est présentée tout de suite par Alexis Rosenzweig. Faits et événements en République tchèque.
Dobrý den, bonjour. Vous êtes toujours à l'écoute du programme en français de Radio Prague. Alexis Rosenzweig au micro pour un sommaire aujourd'hui riche et nous parlerons d'abord de la zone euro. Vous le savez, la zone euro et ses difficultés, une zone euro dans laquelle les Tchèques ne sont pas impatients de rentrer. C'est ce que nous verrons dans un instant et juste après nous parlerons des dessins du caricaturiste français, du dessinateur français Plantu exposé en ce moment dans la capitale tchèque. Ce sera juste avant la rubrique touristique. La zone euro lutte et semble ne pas avoir fini de lutter contre la crise de la dette. Les pays de la zone euro, la Grèce en particulier, sont au centre de l'attention. On parle moins des 10 États de l'Union européenne qui ne font pas partie de cette zone et qui, comme c'est le cas pour tous les nouveaux membres, se sont engagés à adopter à terme la monnaie unique. Pour les Tchèques, cependant, ce n'est pas demain la veille. Ce n'est pas vrai que la Grèce est la seule à blâmer dans la crise actuelle. Les pays qui lui ont prêté cet argent de manière irresponsable sont aussi coupables. Le président tchèque, Václav Klaus, a profité de la crise grecque pour redire tout le mal qu'il pensait de l'intégration européenne. C'est à lui que la République tchèque doit au moins en partie son image de pays eurosceptique. Entré dans l'Union en 2004 et dans l'espace Schengen en 2007, Prague a toujours repoussé l'adoption de l'euro. Et avec la crise actuelle, il paraît évident que l'échéance va être retardée au maximum. À l'heure où on ne parle plus que du référendum grec, le Premier ministre tchèque Petr Nečas vient d'indiquer qu'il était favorable à l'organisation d'un référendum sur une potentielle entrée dans une eurozone, décrite par lui comme une zone de la dette.
Projekt Eura se velmi výrazně mění proti první polovině.
Le projet de l'euro s'est radicalement transformé depuis la dernière décennie. L'union monétaire est devenue une union de la dette. Il est évidemment urgent d'attendre de voir comment la zone euro va évoluer. Nous sommes favorables à des mesures pour une plus grande discipline fiscale et budgétaire. Mais nous ne pensons pas qu'une fuite en avant vers davantage d'intégration soit une solution pour régler les problèmes de l'eurozone.
Le chef du gouvernement est aussi le chef du parti conservateur ODS, idéologiquement proche des Tories britanniques, avec lesquels il a d'ailleurs formé un groupe eurosceptique au Parlement européen. Du côté de l'opposition social-démocrate, qui se déclare pourtant plus en faveur de l'intégration européenne, on préfère aussi laisser passer l'orage pour éventuellement songer ensuite à abandonner la couronne tchèque si l'euro existe encore. Une attitude des élites nationales qui est signe pour le politologue Jiří Pehe d'une méfiance plus viscérale envers Bruxelles. Le provincialisme tchèque joue un rôle important ici. Les Tchèques, à cause de leur histoire, de leur situation géographique centrale et des occupations qu'ils ont dû subir à plusieurs reprises, les Tchèques ont cette attitude très prudente envers tout ce qui vient de l'extérieur. Si cela fonctionne, ils l'acceptent, mais quand les choses se gâtent ou semblent ne pas fonctionner comme elles le devraient, ils sont plus prudents, et c'est le cas à la fois pour la monnaie commune et l'Union européenne. De prudente, l'attitude tchèque devient parfois hostile, voire moqueuse. En effet, les cousins slovaques, fiers d'avoir adopté l'euro avant les Tchèques en 2009, font parfois l'objet de railleries à Prague. Dans les bistrots de la capitale, il n'est pas rare d'entendre que les Slovaques n'ont que ce qu'ils méritent. Même certains économistes tchèques n'y vont pas avec le dos de la cuillère. Le doyen de la faculté d'économie de Prague, Miroslav Ševčík, prévoit que, de toute façon, l'actuelle zone euro va cesser d'exister.
Notre entrée dans la zone euro à l'heure actuelle serait presque, si j'ose dire, un acte de haute trahison. Il existe la possibilité que la zone euro s'effondre et qu'une nouvelle apparaisse, avec l'Allemagne, l'Autriche, les Pays-Bas, peut-être la Belgique, malgré sa dette et son instabilité politique, et des candidats potentiels dont les économies sont très liées à l'économie allemande, comme la Slovénie, la Slovaquie et bien sûr la République tchèque.
Et nombreux sont ceux qui prédisent encore de belles années à la couronne tchèque, mais les prochains mois s'annoncent difficiles ici aussi, avec une croissance revue à la baisse entre 0 et 1%. De l'économie, on passe maintenant à la culture, car le plus célèbre des caricaturistes français, Jean Plantureux, dit Plantu, est à découvrir dans le célèbre passage Lucerna de Prague, une petite exposition consacrée à ses dessins de presse publiés dans le quotidien français Le Monde, expo actuellement organisée par l'Institut français de Prague, rencontre avec Charlotte Fouché, directrice adjointe de l'Institut, et Jean-Sébastien Létang.
Plantu dessine le monde. Tel est le titre donné à cette exposition organisée par l'Institut français de Prague et l'ambassade de France et qui se tient dans l'allée principale du passage Lucerna au centre de Prague du 1er au 30 novembre 2011. Elle présente en quelques panneaux les dessins les plus marquants de Plantu en rapport avec l'actualité internationale des 20 dernières années. Cette exposition a lieu à l'occasion de la 14e édition du Festival du film français, lequel se déroulera du 24 au 30 novembre prochain. Charlotte Fouchet nous explique le pourquoi d'une telle manifestation.
Cette exposition, en fait, on a décidé de la faire au moment du festival, puisque la plupart des films qui sont présentés parlent beaucoup de faits de société, d'événements politiques. Et donc, on trouvait intéressant de mettre un caricaturiste qui parle des mêmes thèmes, mais en utilisant un médium différent. Et donc, c'était un petit parallèle et on trouvait ça intéressant.
Plus qu'un dessinateur, Plantu est une institution en France. C'est la raison qui pousse l'Institut français de Prague à vouloir le faire découvrir en République tchèque. Charlotte Fouchet.
Alors, pourquoi Plantu? Parce que Plantu est quand même une personnalité, un grand dessinateur connu et reconnu en France, qui est très apprécié à la fois par le public, mais aussi par les professionnels. Et donc, pour nous, c'était important de montrer une personnalité comme ce dessinateur. Aussi, il faut savoir qu'il fête ses 60 ans cette année et aussi ses 30 ans au Monde, puisqu'il est abonné à la Une du Monde depuis 30 ans, où il réalise en fait des caricatures en lien avec l'actualité. Et donc, voilà, on trouvait intéressant de l'inviter, surtout que Plantu est quand même connu maintenant internationalement, puisque depuis 2006, il a monté une association qui s'appelle Cartooning for Peace, Dessin pour la paix, qui regroupe en fait maintenant 90 dessinateurs à travers le monde, qui défend en fait la liberté de la presse à travers le dessin, les droits de l'homme, et qui donne un soutien administratif, un soutien juridique aux différents cartoonistes du monde entier. Et donc pour nous c'était intéressant puisque voilà, il a l'aspect national et en même temps la reconnaissance internationale.
Cependant, Plantu ne semble pas avoir fait l'objet de collaborations avec des caricaturistes tchèques. Par ailleurs, en République tchèque, la caricature de presse est moins répandue dans les journaux qu'en France, d'où l'intérêt de cette exposition au passage Lucerna.
Alors, je sais qu'il a été interviewé, en fait, par des journalistes tchèques, mais en fait, à chaque fois, il explique qu'il n'a pas eu de collaboration directe avec des cartoonistes tchèques, mais qu'il aimerait bien un jour, puisqu'il reconnaît, en fait, la grande qualité des dessinateurs tchèques. Mais par contre, dans ces caricatures qui sont présentées au passage du Lucerna, il y a quelques caricatures qui parlent de la Tchéquie, de la séparation de la Tchécoslovaquie, ou même qui présente le président Václav Havel. Et je dirais que la personne qui pourrait être un peu identifiée comme un Plantu national serait Pavel Reisenauer, qui en fait réalise des caricatures pour l'hebdo Respect.
L'entrée de l'exposition est libre, de quoi découvrir le mordant des dessins du monde en attendant l'ouverture du Festival du film français, dont le programme est à consulter sur www.festivalff.cz.
Et c'est avec Jean-Sébastien Létang que se termine la première partie du programme en français de Radio Prague. Mais surtout, restez à l'écoute. Dans une poignée de secondes, vous retrouvez Yaroslava Gisubelova pour la rediffusion d'une émission touristique, la rediffusion d'un reportage consacré à Mnichovo Hradiště. Thank you.
Vous avez dit la République tchèque ? Voyagez donc.
Aujourd'hui, nous nous rendrons à 70 km au nord-est de Prague, aux environs de la ville de Mladá Boleslav, connue pour son usine de voitures Škoda. Cette fois, c'est le château baroque situé à 10 km de là, à Mnichovo Hradiště, qui est le but de notre promenade. Le mot Mnich, moine en français, dans son appellation, se réfère à un ancien couvent qui se trouvait tout près d'ici et où la brasserie Klachterets a aujourd'hui son siège. Avec un jardin à la française au milieu, des écuries situées dans les deux ailes latérales, la Sala Terrena en face de l'entrée principale et le précieux théâtre baroque, le château forme un vaste complexe auquel appartient aussi le lieu du dernier repos d'Albrecht de Wallenstein, commandant militaire des armées impériales à l'époque de la guerre de 30 ans. Wallenstein a acquis le domaine en récompense de ses services après la défaite des États tchèques à la Montagne Blanche en 1621. Car celui qui le possédait jusqu'alors, Václav Budovec de Budov, était parmi les 27 seigneurs tchèques insurgés et décapités sur la place de la vieille ville, raconte Kateřina Pleštková, notre guide pour les deux circuits de visite au château de Mnichovo Hradiště.
Václav Budovec a commandé les États tchèques insurgés, l'opposition protestante dans la guerre de 30 ans. Après la défaite de l'opposition, dans la bataille de la Montagne Blanche, il a été exécuté, ses biens confisqués, et c'est ainsi que le domaine de Mnichovo Hradiště est passé entre les mains d'Albrecht de Wallenstein.
La famille noble des Wallenstein a gardé le domaine pendant plus de 300 ans jusqu'en 1946, date de sa nationalisation. Le château a reçu son aspect baroque actuel grâce à Ernst Joseph de Wallenstein. Les arts et la musique y étaient cultivés par un autre membre de la famille, Vincent, connu pour être le mécène de Josef Myslivecek, surnommé Il Divino Bohemo, que même Wolfgang Amadeus Mozart, ami de Vincent Wallenstein, admirait. La visite du château commence dans les chambres privées de style baroque, richement meublées et décorées de tableaux accrochés sur les murs recouverts de papier peint à la main et de tapisseries précieuses. Dans les salles représentatives, on admire une fresque de 1724 représentant le roi des dieux Zeus et Héphaïstos que les restaurateurs ont retrouvée au début des années 1990 sous une couche de peinture blanche. Au salon musical, le guide attire notre attention sur un clavecin du milieu du 19e siècle, un bureau incrusté d'ébène et d'ivoire importé de France. Une autre particularité du château, la pinacothèque, datée de la première moitié du 18e siècle.
Elle contient quelques 110 tableaux de qualités différentes. Le plus précieux est David et Bethsabée du peintre allemand Strobel. L'histoire de cette pinacothèque est très intéressante. À l'origine, il y avait des cadres et ce n'est qu'après seulement qu'on a cherché des toiles. Puisque leurs dimensions ne correspondaient pas toujours aux cadres, il a fallu soit les couper, soit les agrandir. Et c'est comme ça que plusieurs tableaux ont été modifiés ou dévalorisés.
La plus appréciée par les visiteurs de Mnichovo Hradiště est la salle à manger qui abrite l'une des plus belles et l'une des plus complètes collections de faïences de Delft en République tchèque. Kateřina Opleštková nous la présente.
La faïence de Delft, appelée aussi le bleu de Delft, est une forme de céramique recouverte de glaçure ou d'émail. Cet aspect de porcelaine fait justement la célébrité des faïences de Delft, dont la fabrication a commencé au XVIIe siècle, dans le port hollandais de Delft. C'était en fait des copies de porcelaine japonaise et chinoise importées en Europe et inaccessibles pour la bourgeoisie de l'époque, pour laquelle les maîtres hollandais se sont mis à imiter la porcelaine d'Orient.
Une fierté du château de Mnichovo Hradiště, la bibliothèque dans laquelle Karl Emmanuel Wallenstein a employé comme bibliothécaire le célèbre aventurier italien Giacomo Casanova. Beaucoup de livres ont été déplacés ici du château de Duchtsov, qui appartenait aussi au Wallenstein et qui est le plus étroitement lié au séjour de Casanova dans les pays tchèques.
Les livres sont placés dans des étagères d'origine. La bibliothèque occupe trois grandes salles et elle compte plus de 22 000 tomes, dont environ 2 000 œuvres, qui s'attachent à la période de la guerre de 30 ans et de la contre-réforme. Le plus grand nombre de livres sont consacrés à la botanique. Il y a aussi des cartes et des écrits de sciences occultes, de cabale et d'alchimie. La bibliothèque garde les manuscrits de Giacomo Casanova, qui a rédigé au château de Duchtsov son dernier ouvrage intitulé « L'histoire de ma vie ».
C'est tout pour ce bref survol des deux premiers circuits de visite guidée au château de Mnichovo Hradiště. Le troisième circuit nous conduira au théâtre baroque du château. Les Wallenstein adoraient le théâtre. En 1833, ils ont fait aménager leur propre théâtre dans une partie du château reliée par un couloir avec la partie résidentielle. Sur le chemin, le guide Teresa Zemiova nous montre un objet étrange, un rouleau avec manivelle à l'aide duquel, comme elle le révèle, on imitait le vent dans ce théâtre. En 1833, le château de Mnichovo Hradiště accueillit une rencontre politique au sommet de la Sainte Alliance qui se déroulait en présence de l'empereur autrichien François Ier, du tsar russe Nicolas Ier et du prince de Prusse Friedrich Guillaume. Son objectif était d'affermir le pouvoir absolutiste de l'Autriche-Hongrie, de la Russie et de la Prusse face au processus de démocratisation venant de la France. Les trois souverains sont arrivés à Mnichovo Hradiště accompagnés de leur épouse et amie, et Christian de Wallenstein a trouvé nécessaire de préparer un divertissement pour cette société, dit Teresa Zemiova.
À part des excursions dans la nature, des chasses et des bals, c'était ce théâtre qui a joué un grand rôle. On a invité la compagnie du Théâtre des États à Prague, qui a donné ici, par exemple, la comédie de Goldoni, le valet de deux maîtres.
De nos jours, le théâtre baroque de Mnichovo Hradiště est tout à fait unique et l'un des mieux conservés à l'échelle européenne. Des éléments techniques d'origine ainsi que de nombreuses décorations scéniques y sont sauvegardées.
On a la chance de pouvoir utiliser les décorations scéniques représentant des natures mortes, des maisons et des rues historiques. Et parmi les plus précieuses, il y a les coulisses du château de Prague et du quartier de Malastrana. Les décorations étaient échangées à la main à l'aide de rails en bois. Le théâtre était éclairé par des lampes à huile et à pétrole. Beaucoup de costumes d'acteurs ont également été conservés.
Depuis 1999, le théâtre du château de Mnichovo Hradiště est accessible au public et on y donne notamment des opéras baroques et des concerts de musique ancienne.
C'était la rediffusion d'un reportage de Yaroslava Gisubelova diffusé sur nos ondes pour la première fois en novembre 2008. Et c'est bientôt la fin du programme en français de Radio Prague. Merci à toutes et à tous de votre attention et de votre fidélité.